Rectangle. La vie rectangulaire.
Bonjour à tous, merci d'être venus ce matin à notre Musique District Tour. Alors Musique District Tour, c'est un événement de networking d'été qu'on organise ici avec les sociétés qui sont actives dans le secteur musical et dans l'audiovisuel qui sont installées dans ce bâtiment. Donc c'est notre deuxième édition. Musique District Tour, c'est, vous allez voir par la suite, cette année ça prend la forme d'un barbecue et d'un drink de réseautage avec un concert. Et alors cette masterclass, elle est organisée donc par Freaksville Publishing, notre société d'édition, de diffusion, de distribution et de production de musique. Et nous sommes implantés ici dans le centre depuis déjà quelques années, donc le centre Pépi Bru qui se trouve à l'étage. Cette masterclass sera également captée et diffusée sur notre média web qui s'appelle radiorectangle.be en mode podcast et streaming. Radio Rectangle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une radio qui est dédiée essentiellement aux musiques pop, des plus populaires aux plus underground, mais aussi aux cultures pop et alternatives qui en découlent, dont évidemment les arts tels que le cinéma, la bande dessinée et même les jeux vidéo, etc. Donc, Music on Screen, c'est le nom qu'on a donné à ce... Vous êtes bien sérieux là, on dirait. Vous m'écoutez avec une... côté religieux. C'est le nom qu'on a donné à cette masterclass qui va traiter donc de la problématique de la musique à l'image dans la production exécutive de films en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est tout un programme. Et donc voilà, on a quelques questions qui vont être posées pendant ce module. Bon, j'en ai noté quelques-unes, je vous fais le pitch. L'importance de la musique à l'image n'est plus à démontrer, mais de nombreux enjeux artistiques et économiques en bousculent régulièrement la conception. Quels sont les challenges? Comment optimiser la production d'un enregistrement? Quels sont les budgets? Comment synchroniser de la musique existante dans des délais rapides? Je vais vous présenter nos invités pour ce Music on Screen. Nous avons à ma droite Jean-Yves Roubin, alors qui est coprésident de l'UPFF. Tu vas nous dire un mot de ce que c'est. Et tu es également le créateur de Fracas Productions. Nous avons Stéphane Liberski, réalisateur de Bunker Paradise, Baby Balloon et Tokyo Fiancé. Nous avons à côté Gabriel Alloy, qui est musique superviseur chez The Right Music, qui a d'ailleurs synchronisé la musique du tout nouveau testament de Jaco van der Mal. Et puis à côté de lui, deux compositeurs. D'abord Jean-Marc Lederman. Jean-Marc, lui, qui a composé de la musique et des scores pour Double plus Un Good, de Marc Laguna, mais aussi Africa 3D et puis une série de films de genre, d'horreur, comme The Killing, par exemple. Et en dernier, Renaud Mayer, aussi compositeur. On lui doit d'ailleurs la musique de Eldorado et Mobilhome, entre autres. Voilà. Jean-Yves, peux-tu prendre le micro? J'ai quelques questions à te poser pour faire un état des lieux. Déjà, présente-nous un petit peu ce que c'est l'UPFF pour les gens qui ne connaissent pas.
L'UPFF, c'est l'Union des producteurs francophones de films. Donc, on représente 45 sociétés de production en fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, l'UPFF a pour but de défendre les intérêts des producteurs auprès de soit des administrations ou des politiques.
Combien de films ont produit donc par an? Par exemple, sur l'année 2016, il y en a eu combien comme ça? En Fédération Wallonie-Bruxelles.
Alors, je crois qu'il faut différencier d'abord les films, ce qu'on appelle les films reconnus belges, c'est-à-dire ce sont des films qui respectent des ententes de coproduction qui ont été établies entre les pays. Par exemple, on a une entente avec la France, avec les Pays-Bas, avec la Chine, le Maroc, le Canada, avec tout récemment, ça date d'il y a un mois, avec le Chili. Donc, ce sont des accords de coproduction qui permettent d'imposer quelque part des critères culturels et économique aussi, enfin ça en découle, pour chaque pays. Donc par exemple la France, on doit être minimum à 10% pour être reconnu comme film belge. On doit avoir deux postes cadres, donc ça doit être par exemple la musique, le chef opérateur, etc. etc. Donc ça permet d'avoir le cachet belge sur le film. Alors donc, d'une part, il y a eu l'année dernière, j'ai pris mes petites notes, donc tu vois que j'ai bien préparé.
Et tu parles bien en plus, moi.
Je parle très bien. Ça dépend à quelle heure. Il y a eu 43 films reconnus en fédération l'année dernière, dont 18 films majoritaires, donc d'initiative belge.
Peux-tu citer la liste de tous les films?
Absolument pas, non.
Ok. Donc
sur les 18 films majoritaires, il y a eu 7 films nationaux, donc 100% financés par la Belgique, et 11 coproductions internationales. Donc 43 films reconnus comme belges. Par contre, la deuxième partie, c'est des films qui ne sont pas reconnus comme belges. Donc ce sont des films qui sont purement financiers, c'est-à-dire des films où il y a en l'occurrence que le tax shelter ou une aide régionale comme source de financement belge. Et là, en l'occurrence, il y a eu 287 œuvres agréées. Donc vous voyez qu'il y a, c'est assez compliqué de savoir le nombre de films qui sont effectivement produits en Belgique, en sachant que les 287 œuvres ne sont pas spécialement financées à la fin. Donc le chiffre est un peu compliqué à citer.
Court-métrage inclus, ça ou...
Non, c'est juste pour le long-métrage.
Ah oui, quand même.
Oui.
Ça fait déjà un fameux flux, quand même.
Oui, enfin, le documentaire est assez important. Le court-métrage, ce ne sont pas des chiffres très, très pesants, je veux dire.
Par rapport à une production d'un long-métrage, disons, quel est le pourcentage du budget alloué sur un film, par exemple? Enfin, un pourcentage ou un chiffre, tu me diras, ça dépend d'un film à l'autre, ça.
Oui, mais là aussi, j'ai bien préparé. J'ai un peu regardé hier soir dans les budgets des deux dernières années, des films en tout cas qu'on a produits chez Fracas. J'arrive toujours en fait dans un pourcentage qui vacille entre 1,5 et 2% du coût de fabrication du film. Donc que soit, bon là j'avais un film à petit budget, donc qui était 1,2 million, jusqu'à des films qui vont à 8 millions avec des auteurs, enfin des compositeurs qui sont assez prestigieux. Mais on vacille toujours entre 1,5 et 2% du budget.
Ok. Sur la musique originale, on va un peu parler donc de la musique originale, de la commande musicale. Là, c'est peut-être pour Stéphane d'abord. À quel moment rentrent en jeu, je dirais, les questions de la musique originale chez toi ?
Ben, chez moi, je ne sais pas si c'est plus particulier que chez d'autres. Ben, chez moi, c'est très en amont, puisque j'ai un fils qui est compositeur de musique et très en amont, dès que le film commence à germer, j'aime avoir un univers musical, même pour réfléchir, même pour écrire, etc. Donc, c'est pas une musique collée du tout, elle naît vraiment avec l'élaboration du film. Donc voilà, mais ça c'est mon cas, je sais qu'il y a plein d'autres cas, il y a plein d'autres réalisateurs qui ne font pas ça, et qui collent plutôt des musiques après, parce que moi j'aime aussi monter, être en montage sur des maquettes assez exactes, parce que je trouve que le cinéma, de plus en plus, enfin pour moi, c'est une question de rythme. Et alors, qui dit rythme dit bien sûr musique. Et c'est tellement, enfin ça m'est déjà arrivé d'avoir dû monter sur des maquettes qui après se sont avérées tout à fait autre chose. Et ça, c'est très compliqué. Il faut retourner en montage souvent. Et on perd plus d'argent que si on a une musique pratiquement élaborée avant. Enfin voilà, donc ça c'est mon cas à moi. Et chaque fois, oui, c'est penser à un univers musical dans lequel va se dérouler l'histoire.
Toi Jean-Yves, comment est-ce que tu choisis le compositeur en tant que producteur? Tu fais appel au choix du réalisateur ou tu vas voir dans un book de ce qui existe comme compositeur de musique originale, ou tu fais appel à un musique superviseur comme à Gabriel à qui on aura la parole après?
Mais ça dépend un peu du projet et ça dépend aussi de la structure de production. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a des accords de coproduction avec les pays, avec certains pays, et du coup le compositeur peut être un apport essentiel dans certains pays pour obtenir des financements culturels en l'occurrence. Je prends un exemple très concret, le dernier film de David Lambert qu'on vient de tourner avec Bouly Lanners, qui est une coproduction de la Belgique, le Luxembourg et le Canada. On a une grille à points avec le Luxembourg, et en fait, pour pouvoir rentrer dans les critères luxembourgeois qui amènent quand même, en l'occurrence, 30% du budget, on a dû, entre guillemets, prendre un compositeur luxembourgeois, ou en tout cas reconnu comme luxembourgeois. Donc on était un peu contraint, si vous voulez, de réfléchir pour pouvoir obtenir le financement, qui est quand même 30%, okay. Et d'aller vers le Luxembourg. Et en l'occurrence, on est tombé sur quelqu'un d'extrêmement bien, compétent, etc., qui est
c'est
français,
mieux,
qui est français d'ailleurs.
C'est moins bien.
Donc voilà, après, évidemment, on essaye en amont de réfléchir à la musique au-delà de la structure de coproduction, mais ça rentre en jeu.
Gabriel, tu es musique superviseur, donc on vient te trouver pour... ou c'est toi qui démarches, peut-être, tu vas nous expliquer pour des musiques originales aussi, pour mettre en collaboration un compositeur avec,
oui.
avec donc, un producteur ou un réalisateur.
Donc la supervision musicale, effectivement, s'occupe de tout ce qui concerne donc les musiques à l'image, enfin, sur un film. Ça peut être effectivement faire de la consultance ou des suggestions de compositeurs originaux, effectivement. Et c'est aussi évidemment tout ce qui concerne le clearing, donc oui. Répondre aux demandes de la prod ou des réalisateurs, ou bien même faire des suggestions de musique quand ils n'ont pas d'idée ou quand il faut remplacer, etc.
Mais ça, on en parlera peut-être après, évidemment, c'est dans la liste des choses. Oui. Mais sur une expérience concrète, peut-être avec un compositeur, dernièrement
Ben, par exemple, sur le dernier film de, enfin le dernier film, le premier long métrage de Samuel Tillman, qui est en post-production, enfin qui est quasiment terminé maintenant. Il souhaitait une musique originale. Il n'avait pas d'idée de compositeur. Il y avait des choses qu'il aimait bien, et donc en écoutant ses besoins et ses demandes, je me suis rendu compte que Vincent Liben, donc de Mudflow et de Liben, probablement collerait bien. Aussi parce que c'était un premier film et que Vincent n'a pas encore une grande expérience de musique à l'image, mais qu'il avait une énorme envie de le faire. Et donc je les ai mis en contact. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord un premier essai. Enfin, on fait des premières tentatives, et puis si c'est concluant, ça va plus loin. J'ai un autre exemple aussi avec un moyen métrage d'animation pour enfants. Ils avaient commencé à faire de la musique originale avec un compositeur flamand, que je nommerai pas, et ça s'était pas bien passé du tout, de sorte que la production et le réalisateur étaient vraiment échaudés. Ils hésitaient d'ailleurs à retravailler avec la musique originale. J'ai réussi à les convaincre et j'ai suggéré un compositeur qui s'appelle Karim Baghili, en disant on fait d'abord un essai avec Karim, et puis si ça vous convient, vous allez plus loin. Et puis ça a été plus que satisfaisant. Donc j'essaie en général, je ne suis pas en train de donner une liste de 15 groupes. J'essaie d'abord d'écouter vraiment le besoin, de voir quel est l'univers du film, quelle est la manière de travailler du réalisateur, et puis de mettre en contact des gens. Jusque-là, ça se passe plutôt bien, mais voilà, ce n'est pas une science exacte.
Et le budget, j'imagine, aussi rentre en ligne de compte.
Bien sûr, oui, c'est une épure. C'est vrai que si, dans le cas du film Samuel Tillman, je n'allais pas chercher un compositeur qui a déjà fait 25 films et qui va avoir des demandes financières très élevées, forcément. Il y a cet aspect-là aussi. Mais ça avait du sens aussi de prendre un compositeur, entre guillemets, débutant pour ce qui concerne la musique à l'image, en tout cas, qui n'est évidemment pas débutant dans la musique, et un réalisateur qui fait son premier long métrage. Il y a quelque chose de voilà, il y a une cohérence dans le projet, quoi. Mais c'est aussi une cohérence en termes d'esthétique musicale.
Ok. Renaud et Jean-Marc, vous, comment est-ce que ça s'est passé, votre introduction de la musique de film? Comment est-ce que vous avez été contacté? Comment est-ce que ça s'est passé
Le premier film que j'ai fait, c'est un film d'horreur américain. Je ne sais pas du tout d'où la personne avait entendu mes morceaux. Je pensais à l'époque de MySpace, pour le plus ancien.
Ah oui, donc tu as été contacté électroniquement
par... J'ai été donc contacté électroniquement par cette personne qui était elle-même musicienne. Donc ça a été extrêmement rapide. Elle m'a dit, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu pourrais essayer de travailler sur mon truc? Elle m'a envoyé l'image et j'ai donc passé 15 jours à mettre de la musique sur des scènes de meurtre. Ce qui est toujours sympa.
Et des scènes bien gore, comme ça, que tu te mettais en boucle.
Oui, c'est ça, oui. Donc, dans la dernière chose que j'ai fait, j'ai passé une heure et demie à mettre de la musique sur la tête de Jeunion qui se faisait assassiner dans le coffre d'une voiture. Donc, c'est le genre de truc qui me va bien, je pense. Sinon, en général, oui, les gens contactent ou bien via des pros, ou bien vraiment, parce que l'époque le permet, directement. Et moi, je trouve ça agréable, dans la mesure où c'est quand même toujours agréable de faire la connaissance de quelqu'un et d'un peu essayer de se mettre dans son univers à elle et de l'amener dans ton univers à toi aussi, puisque c'est la demande. Le directeur, enfin le réalisateur d'un film est aussi autiste que le compositeur. Donc quelque part, il faut mettre un petit peu de violence dans les rapports que vous avez avec eux en leur...
Surtout dans des films de ce type-là.
Oui, enfin, je ne fais pas que ça, mais disons, il faut essayer de... Eux ont des difficultés à exprimer exactement ce qu'ils veulent au niveau du son, et c'est à nous de leur montrer, il y a moyen de faire ceci, ou il y a moyen de faire cela, ou je te propose ceci, ou je veux plus te voir parce que les 25 trucs que je t'ai envoyés étaient déjà bons.
Toi, dans ta technique de travail, tu es un peu ce qu'on appelle les électroniciens, entre guillemets, c'est-à-dire que tu as ton studio où tu peux peaufiner la matière, je veux dire, tu n'écris pas un score sur partition qui après doit être... réenregistré, tu peux travailler de manière assez souple.
Ça m'est arrivé de devoir refaire des parties de cello au studio Dada. Oui. Où là, vous amenez quelqu'un qui est vraiment musicien, qui arrive vraiment à jouer d'un instrument. Donc, il y a des moments où effectivement, on doit passer par de vrais professionnels. Et d'autres moments où je travaille la matière chez moi et donc je prends le temps que je veux ou que la production me donne.
Et toi, Renaud, tu me disais que c'est Bouli qui t'avait vu à un concert, ouais. C'est comme ça que tu es rentré dans...
Bonjour à tous, déjà. Moi, c'était un pur hasard. Je faisais beaucoup de scènes depuis toujours. On avait un ami commun qui est Sourire, Bernard Carapel, et qui a emmené Bouli à un de nos concerts. Voilà. Donc Bouli est venu me trouver ensuite et m'a dit « Oh, je voudrais ce morceau. » Voilà.
Oui, comme ça, celui-là.
Ouais, celui-là. Bah, Bouli, c'est ce qu'il veut. Hein. Ça, c'est l'avantage de travailler avec lui. Voilà, il m'a dit que tu peux en composer d'autres pour Eldorado. Oui, avec plaisir. Et c'est lui qui m'a fait comprendre aussi... quel morceau était plus était plus efficace ou plus porteur sur son film, quoi. J'ai appris avec lui, hein. J'avais jamais fait avant, c'était un fantasme. J'avais pas mal de maquettes à la maison, de trucs un peu plus cinématographiques, mais ça restait un fantasme, je veux dire. Voilà, donc c'est grâce à Bouli que j'ai commencé.
Comment place-t-on d'abord le suivi de l'enregistrement, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que le producteur met un assistant de production ou ça se gère entre le réalisateur ? Enfin, comment est-ce qu'on fait le suivi de production sur un long métrage ? Est-ce qu'il y a différentes techniques ? Peut-être Jean-Yves, toi tu pourrais...
Ça va être très court, ma réponse, c'est que je n'y connais rien en technique. Donc j'engage soit des directeurs de post-production ou alors effectivement des spécialistes en musique et puis même en clearance, parce que c'est un milieu qui est quand même assez à part et très technique quelque part. Donc moi, je m'appuie toujours sur quelqu'un d'autre, donc je n'ai pas vraiment de réponse.
Donc tu fais appel à des personnes ressources quand
absolument.
Même
absolument.
Toi Stéphane, pour le montage par exemple, la musique au montage, ça c'est important aussi de voir un petit peu quelle matière doit être fournie, enfin comment est-ce que tu envisages ça,
parce
qu'il y a des changements parfois qui se font au montage, qui font que la musique ne colle plus, etc.
Mais c'est, j'en parlais un petit peu juste avant, en effet, c'est pour ça que j'aime bien voir déjà quelque chose... pas toujours définitif, mais pratiquement, quoi, que c'est, qu'on sait ce qu'on aura pour monter dessus. Et pour ne pas devoir après tout rechanger. J'ai l'impression qu'il y a une osmose entre l'image et le son, et que c'est à penser dès le début. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Hein. Et bien sûr, après, on peut mettre des musiques additionnelles. Et alors, à ce moment-là, oui, c'est des problèmes de clearer les droits, ou si c'est pas des musiques existantes. Oui, enfin, ça, c'est. Mais dans le. Disons, dans le corps principal du film, les scènes clés, etc., il faut, à mon avis, déjà avoir une bonne idée de ce que ce sera, quoi, dans quel univers on se déplace.
Est-ce que quand le compositeur, par exemple, propose une maquette, une démo, on va dire, de la musique, et qu'elle est mise au montage et que la musique n'est pas encore enregistrée, cela est gênant, par exemple, parce que... Il y a des changements qui se font après entre l'enregistrement définitif.
Il y a plein de cas de figure, hein, comme tu disais. Il y a beaucoup de compositeurs maintenant qui travaillent avec des programmes très élaborés, avec des sons, Logic Pro, mais il y a aussi Miroslav avec des violons. C'est impossible pratiquement pour une oreille profane de voir la différence. Mais il se peut aussi parfois qu'on ait besoin de repasser en studio pour enregistrer un quatuor, ce que j'ai dû faire d'ailleurs pour aussi au Dada, d'ailleurs. Pour avoir la texture vraiment d'un quatuor à cordes vrai, ça reste parfois irremplaçable. Donc,
mais et c'était important ta pour question... toi ça, ou c'était plus le compositeur qui tenait à...
Non, c'est important parce que, je te dis, on peut, pour le montage, c'est bien d'avoir la maquette, c'est-à-dire la césure doit être celle de la musique, et puis après, il y a le timbre, il y a le son, etc. Après, alors on peut repasser... Si on a un peu d'argent, ben à ce moment-là, on passe au Dada et on fait faire les violons par un vrai quatuor, etc. Bon, si on a plus d'argent, ben on le laisse comme ça, avec, avec les violons en boîte qu'on a, mais qui sont parfois très très bien. Hein.
Toi, Gabriel, tu as des expériences aussi de... Justement, par rapport au montage, des choses à dire là-dessus.
Là, justement, sur le film de Samuel Tillon, il y a eu aussi des cordes, je pense, d'ailleurs, au Dada aussi.
Donc, on n'a pas de sponsoring du studio Dada.
Non, mais c'est vrai que le montage de la musique sur les images, c'est une grosse étape de la post-production, évidemment. Et effectivement, c'est l'occasion d'ajuster les choses, même si, comme disait Stéphane, pas mal a été préparé en amont. Enfin, idéalement, il vaut mieux que ça ait été pas mal préparé. Mais il y a forcément comme... On sait qu'en montage de film, on va couper des plans, etc., raccourcir. Ben forcément, la musique va devoir s'adapter. Il faut à certains moments que, par exemple, une fin tombe cut sur une fin de plan ou des choses comme ça. Donc forcément, le compositeur original va devoir être souple. Si c'est de la musique préenregistrée, évidemment, là, il y a beaucoup moins de souplesse parce qu'on n'est pas censé, en plus, modifier les morceaux. Donc voilà.
Toi, Renaud, le dialogue que tu as avec le réalisateur... Comment est-ce que ça se passe ? Tu dois t'adapter à l'image ? Tu composes sur l'image ? Est-ce que tu dois également un peu essayer de comprendre ce que dit le réalisateur ? Enfin, de trouver une alchimie avec lui ? Ou tu t'en fous, tu fais ta musique sur base de...
Disons que ça s'est chaque fois passé différemment. La fois où c'était le plus confortable, c'était avec Bouli, qui lui avait une idée, comme disait Stéphane, exactement de l'alchimie qu'il voulait entre l'image et la musique. Là, ça c'est... Toutes les autres fois, j'ai dû me coller à des montages existants. C'était un travail fastidieux, vraiment. Donc voilà, j'avais une scène de 17 secondes et je devais pile poil coller à l'image. C'est vraiment... Bon, je m'en plains pas, hein, je veux dire... Mais quand on vient de te trouver en dernier, en te disant, voilà, il y a quasiment plus de budget ou très peu, donc il faut aller vite et coller à ces scènes, c'est hard, quoi.
Et pourquoi est-ce que c'est comme ça dans le processus? C'est une mauvaise gestion de production du film, selon toi, Stéphane ou Gabriel, ou question de budget ou...
Je pense que certains réalisateurs n'ont pas une idée juste de ce qu'ils veulent, ouais, simplement. Ça. Et ça se trouve en panique, en dernière minute, ouais, voilà, tout simplement.
Alors, le montage est fait, on ne peut plus le retoucher, ou alors très... C'est toute une catastrophe, et à ce moment-là, oui. Enfin, ça m'est arrivé déjà pour une séquence de devoir faire ça, et alors pour les musiciens, ça accroît la bannière, quoi. Parce que
c'est un peu la faute de Jean-Yves, du producteur, voilà. Je veux dire.
Oui, c'est ça.
C'est ce que je fais pour Vierge.
Hein,
c'est ce que je fais pour Vierge de Fracasse. Tu vois ? Voilà, c'est moi qui fais la musique de ce film. Tu savais pas ?
Donc voilà, par exemple, un cas d'école, le producteur n'est pas au courant que...
Ah. Je sais pas si c'est une mauvaise gestion, comme tu dis, mais c'est vrai que c'est dommage de se préoccuper de la musique d'un film trop tard dans le processus. C'est ce qu'on essaye de faire passer comme message auprès des producteurs et des réalisateurs, en disant, même si vous n'avez pas encore d'idée, tâchons déjà de réfléchir, justement, parce que plus vous vous y prendrez tôt, bah mieux ça tombera dans le film, moins ça coûtera aussi, parce que forcément, si on parle de négociation de droits de synchro, les ayants droit, les maisons de disques et éditeurs sentent très bien si on est en phase de post-production. Je dis, c'est même une information qu'ils peuvent obtenir assez facilement, et donc ils savent qu'ils sont en position de force pour négocier, ce qui n'est pas confortable, ce qui est confortable pour personne. Alors que si on démarre, dans le cas du film de Jaco, par exemple, pour prendre cet exemple-là, j'ai lu trois versions du scénario, ah oui, avant le tournage. Où déjà, bon, Jaco est quelqu'un pour qui la musique a beaucoup d'importance. Et donc, sur le film, je crois qu'au total, avec les compos d'Anne Pierlet et les morceaux préexistants, on était à 55 minutes de musique. Tu vois, donc, c'était assez important. Mais il savait déjà vraiment vers où il voulait aller. Ce qui permet d'identifier les éventuels nœuds, c'est-à-dire les morceaux trop compliqués à clearer parce qu'on ne veut pas nous donner les droits ou que c'est trop cher, de trouver des alternatives, etc. Donc, de vraiment faire un vrai travail de fond. Et donc l'idéal, pour une supervision musicale, c'est d'entrer dans le processus assez tôt, ce qui permet aussi d'éviter ce qui arrive malheureusement encore trop souvent, c'est que des réalisateurs s'habituent à certains morceaux. On s'est dit, ah génial, j'ai mis un morceau des Beatles sur mon film sous-financé, et puis on se rend où, d'Ennio Morricone, par exemple.
Film sous-financé,
j'ai dit sous-financé parce qu'il y en a beaucoup, évidemment, dans les 43 ou je sais pas quoi, 287.
Ça, on va peut-être donner la parole à Jean-Yves pour nous préciser.
Et donc, il y a un travail de deuil à faire qui est plus inconfortable, et on perd parfois du temps en disant, oui, mais essaye quand même de voir si c'est pas possible de clearer les Beatles. Voilà. Alors que si on avait pu, plus en amont, tout de suite lui dire, écoute, ne rêve pas, et puis ça n'a pas de sens dans ta production, c'est un film belge avec des couleurs belges, va plutôt travailler sur des acteurs locaux, c'est ce qu'on essaye nous de faire aussi. Voilà, on évite de s'attacher bêtement et de se retrouver dans des situations de production. Moi, je suis gêné. Enfin, je suis gêné quand, par exemple, on va dépenser, je vais dire un chiffre, 20 000 euros pour un titre, un standard international, alors qu'on a sous-payé tout le monde, les acteurs et les techniciens.
Est-ce que ça arrive, ça, Jean-Yves, fréquemment, dans les envies du réalisateur?
Ça peut être un caprice de réalisateur.
C'est plutôt le réalisateur qui demande ça.
Ben à nouveau, un film n'est pas l'autre. Par exemple, à nouveau, le dernier, David Lambert, on a réfléchi. David est quelqu'un qui réfléchit très tôt à la musique. Mais j'ai eu des réalisateurs qui, on se retrouve, je le pousse, et puis en fait la musique ne l'intéresse pas.
Oui, c'est ça. Voilà,
ou en tout cas moins que son image, et il n'a pas envie d'y travailler. Et puis on se retrouve.
C'est fréquent ça, parce que souvent on a ici des réalisateurs qui aiment la musique généralement, mais
pas tout le temps. Ouais. Pas tout le temps. Et je suis d'accord, ce qu'on disait tout à l'heure, tu te retrouves malgré toi quelque part en ayant quand même poussé le réalisateur à y réfléchir, avec des réalisateurs en fin de montage, qui n'ont toujours aucune idée de la musique. Alors, t'as beau garder une poche, à un moment donné, tu peux te prendre un mur. David, par exemple, on a réfléchi... donc, la musique, il avait une note d'attention extrêmement claire par rapport à ce qu'il voulait. Donc, on a pu travailler avec le compositeur bien en amont. Donc, on avait déjà des maquettes avant même d'avoir tourné, un peu comme Stéphane disait avec son fils. Mais, et sur la musique additionnelle, on y a... Vu que moi, j'adore la musique, et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, du coup, on y réfléchit avec David sur des morceaux qui peuvent peuvent être alors à la fois des standards internationaux ou des musiques qu'on va vraiment prendre du temps, David et moi, à chercher pour illustrer ce qu'on a envie dans le film.
Est-ce qu'une mauvaise musique, selon toi, peut foutre un film en l'air? Enfin, une musique mal placée sur des images ou pas réfléchie peut avoir un aspect négatif
Totalement, oui.
Non, évidemment. Je pose la question.
Ah oui, c'est...
Tu as déjà vécu ça, par exemple, dans des expériences de production où tu dis la musique là a eu un rôle néfaste
Même en tant que spectateur, je veux dire, tu peux remarquer à un certain moment où tu te dis, mais qu'est-ce que ce morceau a foutre à ce moment-là? Ou alors il y a trop de musique? Ou oui, je veux dire, c'est une vraie partie... du film, très importante du film, évidemment.
Toi aussi, Renaud, tu t'adaptes, j'imagine aussi, le réalisateur est un peu le roi, on va dire.
Tout à fait, oui, bien sûr. C'est l'alliage des deux qui match, quoi, voilà. Non, j'ai pas d'ego à ce niveau-là.
Peut-être toi, oui, pardon.
Non, je voulais juste rebondir sur des musiques qui seraient pas à leur place dans un film où... Oui. Effectivement, je pense qu'on a peut-être tous vécu ça comme spectateur. En fait, le problème vient du fait que tous les réalisateurs écoutent de la musique, mais tous les réalisateurs ne sont pas connaisseurs en musique. Et donc, le fait qu'on ait des goûts musicaux ne nous rend pas spécialement compétents d'office pour des choix musicaux. Et c'est là, d'ailleurs, où les choses peuvent créer des problèmes, parfois entre les réalisateurs et les producteurs. Évidemment, s'il y a un superviseur musical, c'est encore plus compliqué. Mais c'est vrai que moi, je ne vais pas citer le film, mais j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, un film belge sur lequel il y avait une musique très connue. Mais je pense que quand ils l'ont mis sur le film, ils n'avaient pas réalisé qu'elle était si connue ou qu'elle allait l'être. Et du coup, la scène, comme un certain nombre de spectateurs avaient déjà un rapport avec cette musique par ailleurs, on sortait de la scène à cause de la musique. La musique était trop forte par rapport à... Et ça, c'est dommage. La musique ne doit pas faire sortir du film, en principe.
Stéphane ?
Non, c'est vraiment un équilibre quand tu dis à propos des frames qu'il faut couper, etc. Je pense que s'il y a c'est toujours un dialogue, et s'il y a une bonne osmose entre la musique et le montage, on arrive rarement à des... Tu vois, à des dilemmes pareils, à se dire ah non, là, il faut que couper la musique. Parce que forcément, l'image et le son, ça fonctionne ensemble. C'est une histoire de rythme et de césure. Encore une fois. Et si la césure est bonne dans l'image, ça s'accompagne avec la musique. Il y a aussi un sens musical de l'image. Donc, moi, j'ai jamais vraiment connu le problème de se dire ah bon, là, il faut vraiment couper, et comment faire ? On le fait, hein, même dans les morceaux existants, comme il dit. Hein. On enlève parfois quelques mesures et personne n'y voit rien. Non, mais bon, voilà. Enfin, j'insiste, s'il y a un message à faire passer, c'est de penser bien en amont à la musique, de savoir déjà ce qu'on veut. C'est un peu ce qu'on dit tous ici, et qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est une chose à souligner, c'est peut-être celle-là.
On va passer à la deuxième partie. Donc là, on a parlé vraiment de la musique originale, qui est une commande, hein, donc qui doit être gérée comme le plus tôt. Et puis il y a cette deuxième partie qui est quand même celle qui ennuie, je dirais, les producteurs, mais aussi peut-être les acteurs de la chaîne. Celle qui est compliquée, c'est celle de la musique additionnelle, le placement de musique, donc la synchro. Peut-être, Gabriel, tu pourrais peut-être expliquer déjà les sources de droits à clearer. Donc il y en a plusieurs. Et le processus quand on vient de trouver, par exemple. C'est-à-dire un réalisateur vient de trouver ou un producteur te dit... J'aimerais bien qu'il y ait ACDC, je ne sais pas, Hellbells sur mon film, c'est ça en gros.
Alors, en général, ils viennent quand même déjà avec une certaine idée de ce qu'ils veulent, une liste de musique. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que de plus... Bon, effectivement, ils viennent souvent un peu trop tard dans le processus, donc déjà en post-prod, parfois même déjà à un certain stade de la post-prod. Ce qui se passe régulièrement, c'est que si le réalisateur n'a pas une idée précise de ce qu'il veut, ils vont essayer des choses au montage. Parfois même le monteur va chercher des choses sur YouTube, sur Internet.
Donc le monteur s'implique dans le son aussi, comme
oui.
Ça.
Oui, fait des propositions, tiens, oui. C'est chouette, etc. Il va mettre, alors c'est ses propres goûts, ses propres sensibilités qui vont jouer. Et puis, on n'a même pas toujours les références du morceau. C'est-à-dire, comme on est allé chercher sur Internet, sur YouTube, ah ben oui, mais on lui dit, mais attention, c'est quelle version ? Parce que si on prend un morceau classique, il y en a une infinité, mais même sur des morceaux pop-rock, il y a parfois plusieurs enregistrements. Donc on dit, ok, très bien, le morceau, on a bien compris que c'était, j'en sais rien, du Johnny Cash, mais c'est quel album, c'est quelle référence, parce qu'à ce moment-là, les ayants droit ne sont pas les mêmes. Donc autant en général, l'éditeur, il est le même pour un même morceau et un même interprète, autant sur les enregistrements... il y en a parfois eu plusieurs, en 70, en 80, un autre avec une autre maison de disques. Et donc on doit vraiment identifier pour pouvoir rétablir savoir quels sont les deux les deux ayants droit, quoi. Parfois, il y en a plus que deux, d'ailleurs. Hein. Parfois, vous avez des éditeurs qui se partagent à X% le même morceau.
Donc, les éditeurs, peut-être pour dire un mot pour les gens qui ne savent pas, en musique, les éditeurs, c'est ceux qui gèrent les... les ayants droit du morceau.
Qui gèrent les droits d'auteur, qui sont copropriétaires avec les artistes, donc auteurs-compositeurs, des morceaux, au sens de la propriété intellectuelle. Enfin, au sens du droit d'auteur. À l'inverse, les labels, ils vont être propriétaires des enregistrements, donc des droits mécaniques.
Donc, il faut demander ces deux sources d'autorisation. Donc,
voilà. Ça aussi, parfois, il y a effectivement des producteurs, plus rarement sur des longs métrages ou des boîtes de prod déjà installées, mais on peut se retrouver dans le cas de figure avec des documentaristes ou des producteurs documentaires ou de courts métrages qui n'ont pas une grande expérience, qui par exemple ont commencé une négociation. Et disent, voilà, ça y est, le morceau a été clearé. En fait, ils n'ont clearé que les droits éditoriaux. Ils n'ont pas clearé les droits... Et évidemment, ils se retrouvent parfois avec un problème financier, parce que le montant des droits éditoriaux est au moins équivalent. Enfin, il y a des règles, alors que ce n'est pas une loi. Hein. C'est ce qu'on appelle le MFN. Je ne sais pas si vous connaissez cette clause. Donc, ça s'appelle Most Favored Nation. Les grosses maisons de disques et les éditeurs se mettent plus ou moins d'accord en disant, si l'un touche une certaine somme, alors nous, on doit toucher au moins la même somme. Enfin, on doit toucher la même somme. Et donc, si vous avez, c'est toujours le plus 10 ans en négociation qui va imposer quelque part. Alors, c'est pas une obligation absolue, mais enfin, c'est inconfortable dans les négociations. Donc, si on n'a pas négocié qu'une des parties, c'est un vrai problème. Parce que si tout d'un coup, elle vous dit « Ah non, mais moi, je ne le fais pas à moins du double du prix que vous avez obtenu de l'autre côté. » Et si vous êtes à un mois de la sortie du film, vous faites comment ?
Donc ça, c'est vraiment, il faut aussi travailler ça le plus tôt possible dans la chaîne, vu que quoi, ça prend combien de temps, on va dire, pour clearer des droits ? Ça peut prendre.
C'est un cauchemar. Ça peut durer des mois et des mois. Je pense d'ailleurs, avec l'expérience, qu'il y a que les labels et les éditeurs font traîner exprès. Je pense. Il y a des raisons objectives qui sont que c'est pas toujours facile d'avoir des réponses des différents ayants droit. J'en sais rien, vous voulez clearer un morceau d'un Brésilien, il faut le contacter, oui, mais il y a son producteur, etc. Enfin bon, depuis la Belgique, c'est pas simple. Mais je pense quand même que, vu la vélocité avec laquelle ils nous répondent, bon, c'est variable d'un éditeur ou d'une maison de disques à l'autre, mais ils se précipitent pas toujours pour vous répondre, parce qu'ils savent que le temps, c'est ça qu'on va contraindre la négociation. Et donc, si on est dans une phase de post-prod, ils disent, OK, une post-prod, ça dure peut-être 2-3 mois dans le meilleur des cas, parfois un peu plus si on a des gros films. Et donc, chaque semaine de gagner, c'est un potentiel de négociation en moins, quoi. Et entendez-moi bien, mon but n'est pas de squeezer les ayants droit, hein, donc, parce que ça peut être la tendance, mais enfin, c'est pas non plus de se retrouver dans des situations complètement inconfortables. Il faut répondre à un budget de production aussi, évidemment.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là où les droits ne se clearent pas ? Est-ce que, par exemple, Renaud, qui est compositeur sur un film, on lui demande de faire autre chose ? Est-ce que ça, c'est une possibilité ? Enfin, tu vas nous dire. Ou bien, est-ce que, il y a un film, une musique qui n'est pas clearée, il n'y a pas les droits, mais il faudrait quelque chose qui ressemble un peu, enfin, qui doit remplacer, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est fréquent aussi ?
Oui, bien sûr. J'ai fait du Morricone, entre guillemets, quoi, du Raikouder, entre guillemets. Voilà, mais ça...
Tu me suis à tout faire, comme ça.
Bah oui, bah c'est super chouette à faire. Tu analyses, tu prends un peu les ingrédients, et notamment sur Mobile Home, c'était ça. Il voulait un morceau de Raikouder. Il m'a dit, ouais, tu me fais ça. Mais avec un côté ironique, pizzicato, François Pirot. C'est facile, quoi. Donc, tu prends l'accompagnement, tu prends la bonne couleur, et voilà, ici dans Vierge, mon Keren s'est dirigé vers un truc plus...
Donc c'est un film sur lequel tu travailles, qui est produit, tu viens de l'apprendre.
Un fracasse, ouais.
Par Jean-Yves.
Là, on est dans du Morricone, quoi. Enfin, voilà, j'étais enchanté qu'elle se dirige vers ça. Mais bon, voilà, ça y ressemble. Mais c'est assez facile à faire, c'est un exercice qui est assez facile à faire. À la manière de... Oui, tout à fait. C'est même le plus facile, je trouve.
Et l'autre possibilité, alors, c'est
ça. Tu parlais des Beatles tout à l'heure, où je veux dire, voilà, faire un morceau 60s Beatles sucré.
Oui, parce que comment remplacer, par exemple, Oblada des Beatles, par
Appelez-moi. Facile. c'est vrai que si t'es musicien, c'est facile de copier. Tu sais, tu es musicien. Si tu dois faire un truc à la Morricone ou. Je sais pas moi, peu importe. Kraftwerk. Facile.
Ça, ouais. Et ça se passe pas que sur les films fauchés. Ça s'est produit sur Titanic, par exemple. Cameron voulait que Enya fasse la musique. Je parle pas de la chanson avec Di Carpaccio ou Céline Dion, mais l'autre. Il voulait que ça soit Enya et elle l'a envoyé sur les roses. Disant, je pense que le budget du film était trop faible pour lui.
Oui, c'est ça. Oui.
Et donc ils ont trouvé un gars qui a fait de la musique à la Enya. telle enseigne que les gens croient que c'est Enya qui a fait la musique, mais c'est pas Enya.
Et l'autre possibilité, alors, c'est que toi, tu viennes avec un catalogue de titres pour éventuellement remplacer. Alors, c'est une possibilité. Parce que nous, par exemple, on reçoit souvent dans l'industrie musicale, dans laquelle je fais partie, des briefs, ce qu'on appelle des briefs.
Ouais.
De producteurs, etc. Qu'est-ce que tu pourrais un peu spécifier ça? J'en ai d'ailleurs reçu de chez toi quelques-uns.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a, il y a trois, pour schématiser, il y a donc effectivement la musique originale qui va venir vraiment se créer pour ce film, pour ces images-là, pour ce film-là. Il y a les morceaux, je veux dire, les standards internationaux préexistants, donc des morceaux connus ou plus ou moins connus. Ou de musique classique. Et puis il y a effectivement, je qualifierais ça, mais c'est pas d'office péjoratif, il y a la musique au maître, c'est-à-dire qu'il existe des banques de données accessibles d'ailleurs directement sur Internet, ou pour quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, donc des budgets relativement modestes, vous arrivez à clearer, vous obtenez tous les droits directement en ligne. Et dans le cas du film de Jaco,
par exemple... Tu vas te faire péter la tronche par les gens qui sont derrière toi.
Non, mais c'est pour ça que je dis, c'est pas une question que qualitative. Il y a beaucoup de compositeurs qui se sont dit, mais dans le fond, je dépose tout un tas de morceaux là, qui sont des morceaux très bien faits, parfois même très bien produits. C'est pas le cas de tous, mais tout un tas qui sont très bien produits et très bien composés. Et certes, ça rapporte pas beaucoup, mais par contre, c'est tellement facile à vendre ou tellement plus fluide que en fin de compte on s'y retrouve quoi. Dans le film, sur le film de Jaco, on a eu à la fois la musique originale d'Anne Pierlet, on a eu tout un tas de morceaux de standards et de morceaux connus là où on passe par des labels et des maisons de disques et des éditeurs reconnus, et puis effectivement on a clearé je crois 6 ou 7 morceaux qui étaient morceaux moins importants dans l'histoire, mais que par exemple ça va être une musique dans un ascenseur, ça va être dans un supermarché, etc., des musiques d'ambiance, où là je suis allé chercher sur un site de musique en ligne quoi.
Avec peut-être le risque qu'il y ait beaucoup de... souvent les mêmes musiques d'ambiance qui se retrouvent. Non, parce qu'il y a peut-être trop de choix.
Quantité astronomique, oui. Astronomique. C'est, oui. Et donc là, à ce moment-là, on peut, effectivement, il y a des moteurs de recherche qui permettent d'identifier. J'en sais rien, moi je vais dire, je cherche une musique de cirque. Et je vais chercher. Alors là, pour le coup, musique de cirque, je n'ai pas trouvé mon bonheur, mais il y avait des choses qui ressemblaient.
Renaud, peut-être que tu pourrais déposer des musiques de cirque pour.
J'ai fait, c'est des jingles radio, j'ai fait de la musique de la variété italienne pour Torpedo, quoi. Donc, il y a un moment, une fête chez des Italiens, comme ça, j'ai dû faire de la musique de variété italienne, les jingles radio, tout, quoi. C'est agréable à faire aussi, c'est rigolo.
Et par rapport à la clearance de droit, Gabriel, pour un film, tu demandes par territoire. Alors comment ça se passe? Parce que ça va être ingérable pour les sorties alors d'un pays à l'autre.
Ouais,
quoi.
Ça fait partie du jeu de la négociation aussi. Bon, d'abord, il y a une demande de la production. En Belgique, c'est souvent 30 ans, monde, tout média. Ça, c'est la demande idéale. C'est-à-dire, si je pouvais avoir les droits pour 30 ans, monde. Bon. Et puis tout ça, évidemment, a une incidence sur le prix. Si vous demandez 30 ans, c'est plus cher que 20, etc. Et donc, quand la négociation est compliquée ou que c'est trop cher, on rediscute avec la production en disant, est-ce qu'on diminuerait pas un peu le scope? Est-ce que c'est vraiment un problème si vous avez le droit que pour 20 ans? Si dans 20 ans, vous vous posez la question de la rentabilité de ce film, ben peut-être qu'à ce moment-là, vous serez peut-être content de repayer les droits, etc. Donc, effectivement, on négocie par territoire, par durée, sur les médias concernés, etc. Et tout ça a une incidence sur le prix, quoi. Une autre incidence aussi à laquelle on ne songe pas toujours, je sais qu'en France, souvent, ils négocient directement ces droits-là, mais c'est-à-dire qu'ils les payent, ils les surpayent quelque part, c'est le fait de pouvoir mettre la musique au générique. Si vous négociez tout de suite sur tous les morceaux la possibilité de mettre le morceau au générique, effectivement c'est plus confortable parce qu'au moment où vous allez faire votre générique, qui est vraiment très tard dans le processus, vous vous dites ok, je peux prendre n'importe laquelle, mais ça veut dire qu'en fait vous avez payé 10 fois, enfin si vous avez 10 titres, alors vous auriez dû avoir une seule négo pour avoir la musique au générique, enfin, une des musiques par exemple.
Toi, Jean-Yves, en tant que producteur, tu as déjà eu des problèmes avec des droits de musique, etc., sur des films, pour des territoires différents
À nouveau, pour Troisième Noce, je crois que ça va répondre à ta question. Oui. Dans le scénario, on avait un morceau d'ABBA, de Village People et des Bee Gees.
Oui.
Donc, enfin, voilà, c'était... comme dirait ma femme, on a déjà le nom, essayons Louis. bon, finalement, ils n'y sont aucun des trois. L'un a tout... simplement refusé. Le deuxième avait... Bon, il y a trois frères, il y a trois managers différents. c'était juste impossible à gérer. Et puis le troisième morceau, je sais plus, c'était hors de prix. Alors même en attaquant des... Et effectivement, je suis d'accord avec toi, ils gagnent du temps, ils essayent de gagner du temps pour être un peu dos au mur et devoir dire oui au final. Alors la gestion sur les droits, qu'ils soient mondiaux ou pas, alors on peut essayer de faire tomber l'Amérique du Nord, qui est en général le territoire le plus cher, mais ça peut te mettre dans une situation un peu problématique avec ton vendeur international, qui forcément tu vas lui dire, bah voilà, mon film est exploitable, mais pas en Amérique du Nord. Donc du coup, il va te dire, ouais, mais non, écoute, voilà, ça sert à rien que je travaille dessus. Donc oui, c'est une... La clearance, à nouveau, moi je travaille avec une personne qui ne fait que ça, qui s'occupe de lancer les négociations, et puis qui me dit, voilà, est-ce que tu prends pas, j'ai telle condition, le générique ou pas.
Et combien de temps à l'avance tu mets pour travailler là-dessus?
Ah, on commence très 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 tôt, nous. Oui. Alors, soit tu as la musique intradiégétique, comme on avait le cas sur Troisième Noce, où les morceaux étaient clairement dans le scénario, donc forcément... tu t'y prends fort tôt en avance, soit on se dit, écoute, laisse tomber, on y réfléchira un peu plus tard, mais quand même avant le tournage, parce que je pense que c'est important, et surtout au niveau de la production, pour ne pas avoir de soucis au niveau de la gestion de ton budget, qu'on se retrouve avec des trucs impensables. La personne avec qui je travaille me propose en général des morceaux qui sont proches, ou mais ça, je trouve que ça marche assez rarement. Voilà, j'ai un autre exemple, c'est sur un film où on avait un morceau écrit par George Thorogood, qui était repris par
And the Destroyer.
And the Destroyer, repris par nos amis de voilà, avec la barbe.
ZZ Top.
Voilà, merci. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'était ZZ Top était à 150 000 euros et Thorogood on l'a eu à 12 000. Pour le même morceau.
Donc tu as pris ZZ Top alors.
Voilà, donc à faire. Ou un autre exemple.
Pour un film de quel budget?
C'était un film belge à 2,5 millions, je pense. Donc voilà, évidemment, c'était un
c'est déjà choix. Beaucoup quelque part.
Bah, les 12 000 euros, oui, après, c'était une scène vraiment très importante du film et il nous fallait absolument ce morceau-là. Donc on avait négocié ça très, très en amont. Et j'ai encore un autre exemple, mais ça, c'est un collègue canadien qui m'a expliqué. Pardon ?
Je le fais pour 2000 balles.
Sans problème. Non, mais je crois que Jean-Marc le fait pour 1500, lui.
Je ne fais jamais de copie. En fait, j'aimerais savoir comment l'industrie du film, puisque c'est un peu ce que vous représentez, se prépare aux changements qui interviennent déjà dans l'industrie de la musique, du style, les artistes maintenant ne vendent, entre guillemets, leur catalogue que pour une durée de temps réduite, donc il va y avoir des problèmes au niveau des droits mécaniques. Et que par rapport au contrat de publishing, il y a aussi une réévaluation énorme de la façon dont les artistes donnent leurs droits pour une durée limitée. Donc à mon avis, ça va être un énorme problème dans une dizaine d'années.
Oui, moi, j'ai déjà eu le cas, c'est-à-dire que ce qui se passe quand ça se produit, c'est que par exemple, il y a un label qui est propriétaire d'un morceau pour les trois prochaines années, et puis plus. À ce moment-là, on négocie avec le label et avec les ayants droit, avec en l'occurrence le compositeur. Et il y a un partage, enfin on dit voilà, écoutez, non, pour les 3 ans du label ou les 2 ans qui restent, ben on va payer autant, et puis le reste va chez l'endroit. Mais ça complique, ouais, ça multiplie les négociations. De toute façon, plus il y a des endroits et plus il y a de plus c'est complexe, et c'est vrai que les droits d'auteur c'est complexe.
Oui, donc si on peut retenir quelque chose de la synchro, c'est ça prend du temps et ça coûte cher, et parfois on travaille pour rien.
Bah, envie d'ajouter un dernier truc, c'est que ça coûte d'autres. Le ratio, tu parlais de 1,5-2%, c'est à peu près les chiffres que j'avais aussi, entre 1 et 2%. Moi, j'étais sur. Pour toute la musique. Hein.
Toute la musique, oui,
c'est ça. Parce qu'il y a eu aussi. Enfin, il y en a peut-être dans la salle, donc des membres de la guilde qui veulent pousser les producteurs à consacrer au moins 2% du budget musical à la musique originale. Donc là, on est nettement en dessous de ça, des moments où il y a la musique préexistante. Mais ce que je veux dire, c'est que la difficulté, c'est que plus le film, plus le budget du film est petit, plus les négociations vont être compliquées, parce que on pourrait penser que ce pourcentage reste vrai, mais il y a un moment où les ayants droit, si on parle des majors, et on tombe très vite sur les mêmes chez EMI, chez Sony, chez Universal, etc., chez Warner, ça va pas les intéresser. Si vous leur dites voilà, j'ai 250 balles pour un morceau, au moment à la limite ils vous répondent même pas, quoi. Et donc c'est d'autant plus difficile que le budget du film est petit, parce qu'on va se retrouver avec des montants musicaux qui vont forcément augmenter en proportion aussi. Et donc j'aurais tendance à dire que si vous avez un film avec un petit budget, soit soyez très créatif sur la musique, commencez tôt, travaillez avec des gens locaux, ce sera forcément moins cher et moins stressant que d'essayer de mettre des morceaux trop connus, parce que ça va être compliqué, quoi.
Ou acheter sur internet des morceaux pas très chers, voire qui se trouvent en grand nombre, hein, parce que aussi tu parlais de MySpace par exemple qui date d'une autre génération, mais c'est une manière aussi maintenant on a de voir des gens qui contactent et qui achètent, comme tu disais, les morceaux sur le net. Et parfois tout est préacheté, même parfois des clauses d'exclusivité sur l'achat du titre.
Je pense qu'en fait la finalité de tout ça, c'est you pay peanuts, you get monkeys. Si une production ne veut pas donner d'argent pour faire un élément aussi important que la musique dans un film, elle se retrouvera avec des éléments qui sont disons de moindre qualité, parce qu'il n'y aura pas la même empathie de la musique par rapport à la scène, parce qu'il n'y aura pas la même empathie du directeur par rapport à la musique qu'il a envie de respecter aussi. Donc quelque part 1% ou 2%, je réserve mon jugement et je n'en dirai pas plus, mais c'est ridicule.
Si c'était le cas, ce serait bien 1 ou 2% du budget du film. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai travaillé sur 7 longs métrages, c'était toujours beaucoup moins que 1 ou 2% que le budget du film. Pour les 3 morceaux où j'ai fait, pour les 3 films où j'ai fait toute la musique, c'était beaucoup moins pour toute la musique originale.
Mais il faut bien penser que c'est 1%.
Et batailler, ouais. Il a fallu batailler ouais. pour se rapprocher du 1% plutôt que 1 ou 2%. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein.
Mais si on parle de la musique originale, de nouveau, c'est une proportion. C'est pour ça que je dis que si le budget du film est petit, il faut probablement consacrer plus que ça. Si vous avez un film à 10 millions d'euros et que vous ne faites que de la musique originale, si vous mettez 2%, ça fait 200 000 balles.
Bien sûr.
Là, on peut même se dire, est-ce que c'est pas exagéré d'aller payer 200 000 à un compositeur, quoi. Donc, tu vois, c'est une question de proportion. Donc, les chiffres.
D'âpres négociations. C'est âpre, c'est...
Moi, j'aimerais bien que la musique, que l'industrie du film, en fait, se préoccupe plus de l'industrie du jeu vidéo, dont le chiffre d'affaires est équivalent à l'industrie de
toi, tu as travaillé pas mal, hein, pour le...
J'ai fait beaucoup de musique de jeux vidéo, et là, justement, la démarche est totalement différente. Les gens se rendent compte de l'influence d'un morceau dans un jeu vidéo. Et ils sont prêts à mettre de gros pourcentages, 10-15%, parfois, pour avoir une musique originale, oui, pour avoir une musique originale créée pour un jeu, parce qu'ils se rendent compte que la chose a une valeur inestimable. Donc quelque part, je pense que croire qu'on peut continuer à fonctionner avec 1% et demi ou 2% pour des créations originales pour un film, ou même pour l'ensemble des musiques avec les droits clearés, c'est illusoire.
À nouveau, c'est une question de budget global. Je veux dire, quand
oui,
tu fais un film,
c'est aussi le rôle du producteur de dire aux gens impliqués, écoutez, prenez quelqu'un pour soigner l'oreille.
Non, mais c'est surtout une question de réalité. Je veux dire, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, par exemple sur les 40 et des projets reconnus, la moyenne, j'ai calculé, la moyenne des films était de 2,2 millions. Quand je dis 2,2 millions, c'est le coût de fabrication, plus la marge producteur, plus les frais généraux. Donc tu retires 10% en client force, ça fait 2 millions. Si on prend 2%, ça fait 40 000 euros pour la musique. Après, il faut payer les 150 personnes qui vont travailler. Donc, je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, les jeux vidéo, ce sont des autres... C'est une toute autre économie. Ce sont en général des budgets beaucoup plus élevés. Hein. Je prends juste GTA, c'est quand même 250 millions. Même les jeux les plus petits, c'est une toute autre économie. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment comparable. Et quand je regardais hier soir mes budgets, on avait quand même Alexandre Desplat sur un des films, et il était heureux, ça s'est très bien passé, on a eu de la formidable musique, on était quand même à 2%. Donc voilà, je pense que donner des chiffres comme ça, c'est rien, c'est juste au cas par cas, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et on peut faire ça d'ailleurs sur tous les postes en général dans l'industrie du cinéma, avec les auteurs, avec les réalisateurs, avec les techniciens aussi. Ouais.
La différence quand même, c'est que les techniciens n'ont même pas l'espoir de toucher des droits après coup.
Oui, parce que ça aussi, parlons un peu de la diffusion des films aussi, de qu'est-ce qu'ils génèrent comme droits. Est-ce que sur les films, toi, en tant que membre de l'UPFF, est-ce qu'il y a beaucoup de films qui sont distribués à l'étranger, quoi? Enfin, je veux dire, est-ce que ça génère des droits en suffisance pour le compositeur? Est-ce que tu as une idée de ça?
J'ai pas d'idée du chiffre comme ça, mais effectivement, je veux dire, de toute façon, les 90% des films produits en Belgique sont d'office exploité en salle. Maintenant, avec les canaux de distribution, que ce soit, je pense qu'il y a très très peu de films qui sont produits en Belgique, où on n'a pas la VOD, où on n'a pas la PTV. Enfin, je veux dire, c'est devenu une coutume maintenant d'avoir forcément une plateforme et donc des droits derrière. Idem maintenant avec l'arrivée, ils sont là depuis longtemps déjà, mais Netflix, Amazon, etc. Donc il y a, il y a des revenus forcément sur. Mais pour nous, je sais que tu m'avais posé la question, au niveau de l'édition de la musique, c'est pas très important, en tout cas dans l'industrie belge.
Oui, c'est ça. Oui, ouais. Oui Gabriel.
Mais ça va vraiment dépendre d'un film à l'autre. Un film qui fait un succès, le compositeur ou la compositrice va toucher des droits, surtout si ça part à l'international. Par exemple, dans le cas du Tout Nouveau Testament, puisque nous, on est co-éditeur, enfin, le producteur est resté co-éditeur de
morceaux. T'es malin, toi, quand même. Hein.
Je sais que Anne Pirlet donc a d'ores et déjà touché plus en droit qu'elle n'a eu de budget pour créer la musique. Et donc dans ce cas-là, ça devient très intéressant.
Elle aura une belle véranda Willems alors.
Voilà, c'est ça.
Fait de cet ordre-là.
Non, mais on n'est pas non plus dans des, on parle pas de millions, hein, mais je veux dire voilà, quand le film marche bien, et c'est le cas du Tout Nouveau Testament, il y a évidemment des retours. Ce qui marche bien, c'est les diffusions télé, etc. qui
Toi aussi, RTBF, Renaud, tu vois ça sur un film qui fonctionne, une petite différence au niveau de ton...
Une grosse différence, hein, oui, tout à fait. Bah, Eldorado, oui, ça m'a rapporté...
Véranda Willems ou pas?
Non, plutôt une bagnole d'occasion. Non, mais voilà, ce sont quelques milliers d'euros qui sont générés pendant l'année de diffusion. Et voilà, oui, ça reste de l'ordre de quelques milliers d'euros.
Et qui s'occupe de ça dans le processus? C'est le producteur qui suit, enfin l'éditeur de la musique qui suit alors les diffusions? Comment est-ce que ça se passe? Ça
a pas abstrait pour historiquement, moi. En fait, les producteurs ayant payé la musique étaient propriétaires des enregistrements. Seulement, ils n'en faisaient dans la plupart des fois rien du tout. Aujourd'hui, être propriétaire des bandes, ça rapporte plus grand-chose. Et donc, là où se trouvent les sous potentiels, c'est dans l'édition. Et donc, il y a des producteurs qui se sont dit « Mais attends, je vais garder des droits d'édition ».
Donc contrat aussi en direct.
Voilà, contrat avec l'artiste. Si tant est que l'artiste soit propriétaire de ces éditions, ce qui n'est pas toujours le cas, ils ont déjà parfois des éditeurs. Donc là, il y a une discussion à avoir. Voilà, ça va être du cas par cas, mais aussi une possibilité, en tout cas, pour avoir des retours. Après, les producteurs peuvent aussi travailler avec des structures, comme la mienne ou d'autres, qui vont essayer de faire fructifier leur catalogue, dont ils ne font rien, et parfois réutiliser des musiques sur d'autres films, etc. Et pour l'anecdote, il y a une boîte en France, parce que dans le cas d'Anne Pirlet, on se posait la question de sortir le CD, donc de sortir le CD de la musique du film. Et on a été approché, enfin le producteur français nous a mis en contact avec une boîte qui s'appelle Milan Édition. Et en fait, eux, ils sont très malins. On n'a pas travaillé avec eux, évidemment, mais ils sont très malins. Ils ont compris un truc, c'est qu'en fait, les producteurs de films français payent des créations musicales dont ils ne font rien. Et donc, eux, ils passent derrière et ils leur disent, bah, regardez, votre création musicale, vous n'en faites rien. Donc, nous, on va s'en occuper et on vous paye simplement des royautés de vente. Mais en fait, ils n'ont jamais payé la création. Le modèle est assez génial, quoi. Et si vous tombez par chance sur un film dont la musique cartonne, ce qui arrive de temps en temps, c'est pas la norme, mais ça arrive, et ben c'est bingo, quoi. Et donc, mais pourquoi ils le font ça? Parce qu'en fait, le secteur, les producteurs de cinéma connaissent pas bien le secteur musical et surtout savent pas comment faire fructifier. Et c'est pas simple. Hein, ça, même les producteurs de musique ne savent même pas toujours eux-mêmes.
Donc. C'est vrai qu'il y a très peu d'exploitation après du film, par exemple des bandes originales. Toi, Stéphane, je sais que tu as monté sur place un label, une maison d'édition qui où on trouve tes musiques. Mais peu le font. Ouais. On a difficile
parce
à trouver.
Parce qu'il y a la musique de Bunker Paradise a eu un certain succès. Elle est toujours en vente sur iTunes. Elle n'est pas sortie sur support CD, mais il y a régulièrement.
Mais on la trouve, je veux dire. Elle est
on la trouve, oui. Parce que ça. Et là, il se fait que là, j'ai un petit label où j'ai dit des choses. Et la musique de Tokyo Fiancé, je l'ai mise sur un support CD. Bon, c'est des ventes discrètes, hein, mais voilà, ça existe. Et ça sert aussi de carte de visite, des choses comme ça. C'est pas mal.
Toi, Jean-Yves, tu as des bandes originales qui sont sorties sur des objets discographiques. Tu as des...
Ben là, on sort la musique de Grave, oui. Qui est sortie. Enfin, le film est sorti en mars dernier, parce qu'on s'est rendu compte en fait que la musique marquait très très fort les esprits dans le film. Donc c'est un film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, un film cannibale, donc un peu d'horreur, mais qui a très très bien marché en salle et à l'international. Et là, on a décidé d'éditer des 33 tours, mais uniquement des 33 tours.
Voilà. Oui, le film a quelque chose de rock aussi. Enfin, je veux dire,
oui, voilà, c'est ça. On a trouvé une société d'édition française qui... voilà, on a trouvé un deal global avec eux. J'ai oublié le nom de la société, mais ils ne font que choisir vraiment. Donc, c'est des coups de cœur. C'est eux qui créent la pochette, etc. Donc, il n'y aura même pas l'affiche sur la pochette du 33 tours. Ils ont créé un nouveau graphique, que je n'aime pas du tout d'ailleurs, mais soit. Et voilà, donc on sort la musique en 33 tours, ce qui est assez rare de nos jours.
Et vous deux, vos musiques
sont... On sort la BO de Double Plus and Good sur donc un double vinyle, parce qu'on y a, on a écrit tous les deux pour le
film de Marco Laguna. Donc le film n'est pas encore sorti, la musique est déjà sortie en double vinyle rouge.
Ouais, c'est une putain de gueule, c'est terrible.
Mais bon, là c'est peut-être un peu différent, le réalisateur est dingue de musique et musicien lui-même. Donc,
chanteur de la Muerte, hein, Marco Laguna, voilà.
Est-ce que justement le fait de faire exister votre musique en parallèle à votre rôle de compositeur de long métrage, ça aide pour avoir une visibilité? Enfin, l'autre question, est-ce que des producteurs viennent vous engagent parce que aussi vous êtes visible à côté avec vos groupes respectifs, vos projets respectifs?
Moi, ça à chaque fois était le cas. C'est peut-être un hasard, mais je ne pense pas. Voilà. Ben, Bouli s'est retrouvé à un concert du groupe que j'avais à l'époque, mais on était pas mal, il y a beaucoup de presse, beaucoup de promos. Voilà, ouais, il faut être visible. Il faut être visible. Les gens préfèrent travailler avec des gens qui sont déjà actifs, qui ont un public. Puis c'est l'occasion de mixer deux publics aussi. Si tu dis, ouais, que les mecs vendent quelques milliers d'albums, etc. Ben ouais, c'est chouette de pouvoir mixer ça, quoi.
Toi, tu le sens aussi?
Je pense que c'est indispensable.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ben, disons, un réalisateur va par exemple être d'accord de travailler avec un artiste. Qui n'a peut-être jamais fait de musique de film, mais qui par contre qui est reconnu par ailleurs. Donc le fait d'être visible, reconnu comme artiste, c'était le cas avec Anne Pirlet, puis c'est sa première BO sur le film de Jaco. C'est le cas avec Vincent Liben sur le film de Samuel, et puis sur d'autres. C'est une crédibilité, bien sûr. Et puis effectivement, ça peut être aussi, dans une moindre mesure, comment dire, des choses qui s'auto-alimentent, enfin qui se renvoient renvoient l'une à l'autre, quoi, quelque part. Enfin bon, même si ça reste deux mondes quand même assez disjoints.
Oui, moi j'ai eu des fans d'Eldorado qui sont venus au concert, par exemple. C'est marrant, ce sont des passerelles qui sont, voilà, qui existent.
Oui, bien sûr.
Et toi aussi, Stéphane, avec ton fils qui fait donc une partie de tes musiques, Casimir,
ouais.
Qui a aussi une carrière aussi lui de jazzman pianiste.
Oui, 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 oui.
C'est important aussi d'avoir une passerelle entre deux mondes comme ça.
De toute manière, hein, maintenant on est dans le monde des likes et des views. Non, ça fait tout, hein. C'est comme ça, c'est assez général. Plus t'es connu, plus t'es connu.
Et plus t'es connu, quoi.
Un peu ça, ouais. Donc oui, oui, c'est une généralité. Ça devient une banalité, même.
Stéphane, tu fais de la bonne musique aussi, hein, parce que tu as composé pour Eldorado aussi. Hein.
Ben oui, justement. Justement. Et parce qu'on parlait des droits et tu me disais que tu en recevais, mais bon, ça doit être trop petit. Ça,
je pense que je touche les tiens.
C'est pas dans le
radar. Je vais toucher les tiens, mon ami.
Faudra qu'on se parle après.
C'est dans mon genre, un petit peu. Hein, donc, confondu.
Je crois qu'il faut peut-être un mot de conclusion de chacun par rapport à ça, donc par rapport à la musique en film. Donc, moi, je retiens de ce que vous m'avez dit, c'est... interagir le plus tôt possible, possible.
Je crois que c'est vraiment ça, et ça résout beaucoup de problèmes de clearing et de montage et de remontage, et enfin bon, c'est beaucoup plus agréable, et je trouve que ça fait partie du langage. Enfin bon, cela dit, on est dans le film, là on parle des films indépendants,
oui, bien sûr. Hein,
on n'est pas, je pense que le discours serait tout à fait différent si on parlait de Harry Potter ou...
Il y a beaucoup de musique dans Harry Potter, par exemple.
Il y a tout le temps. Un jour, je me suis rendu compte de ça. C'est pas tellement mon genre de film, mais j'étais vraiment stupéfait qu'en réalité, il y en a tout le temps. Mais ça commence et ça finit, et il y en a tout le temps. Parfois, elle est un petit peu dans le fond, puis elle remonte, et puis il y a de la musique tout le temps. C'est étouffant, c'est complètement absurde. Là, bon, on est de l'autre côté de du miroir. Là, c'est la musique. La musique, elle perd de son effet puisqu'elle est permanente.
Par contre, dans les films des frères Dardenne, il n'y en a pas.
Et dans les films des frères Dardenne, il n'y en a pas du tout. Non.
Voilà.
Et peut-être aussi alors penser local, peut-être, c'est peut-être une manière aussi sur des films plus, donc avec des plus petits budgets, d'avoir une meilleure collaboration.
Ben, enfin, plus, je sais pas, plus t'es proche du musicien, plus tu as un dialogue avec lui.
Sauf s'il sent mauvais, parce que si c'est trop proche et qu'il sent pas bon.
Oh, ça, on peut faire ça dehors, au barbecue. T'as vu la transition?
Oui, oui, tu es le roi.
Moi, ce que je voudrais, effectivement, penser local, mais pas seulement pour les petits films. Hein. Donc, c'est bien de penser local pour tout, sans exclusive. Ce que je voulais juste dire, c'est que dans encore trop de boîtes de prod, on pense qu'on va pouvoir clearer soi-même. Et donc, on branche un assistant de prod, parfois même une stagiaire, en disant, tiens, cherche-moi les ayants droit, ça, etc. Vraiment, avec l'expérience, c'est un vrai métier. Et ce que vous allez gagner en ne payant pas un superviseur musical ou un professionnel, vous allez le reperdre en mauvaises négociations, en stress, en temps perdu, etc. Le jeu vaut pas la chandelle, sincèrement. Voilà, c'est pas ça pour vendre ma cam, mais franchement, c'est souvent complexe. Oui, mais enfin voilà, c'est pas moi. Ça serait plus crédible venant d'un producteur, mais je pense qu'il.
Le dernier mot au producteur, non, c'est toujours lui qui a le dernier mot, donc.
Non, je suis absolument d'accord, et ça fait des années d'ailleurs que je n'ai pu négocier un seul contrat de cession de droit.
Toi, tu délègues beaucoup quand même. Tu aimes bien déléguer.
Il faut pas que je vienne ici, tu vois. Bon, non, je veux dire, chacun a sa spécialité. Je veux dire, la production a quand même, c'est quand même un truc hyper complexe. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, c'est très technique, très droit, donc forcément, c'est beaucoup d'avocats. Et puis, voilà, le clearer, pour moi, c'est un avocat qui va défendre tes droits et auprès des. Parce qu'en général, il y a quand même pas mal de majors avec qui tu vas négocier. Et ils sont, en l'occurrence, plus forts que toi en général et ils peuvent te bouffer. Donc, je veux dire, tu ne chipotes pas sur la clearance d'un morceau musical. L'exemple que je voulais donner tout à l'heure, j'ai et je fais revoir d'ailleurs le film après par un clearer pour être certain qu'il n'y ait pas de soucis. J'ai un ami canadien producteur qui avait produit les deux premiers films de Xavier Dolan, donc J'ai tué ma mère et Les amours imaginaires. Sur l'un des deux films, il y a Suzanne Clément qui range des tasses dans son armoire comme ça, et Dolan lui dit tu veux pas rendre la scène un peu plus gaie, etc. Donc elle fait viande rose, et ils n'ont pas du tout fait attention à ça. J'ai tué ma mère, je crois que c'était $600,000, et à la projection à Cannes, ou une projection de presse, je sais plus, il y avait un gars de chez Universal ou Sony qui a vu le film, qui est allé le trouver, qui a dit, vous avez 24 heures pour clairer les droits, ou me prouver que vous avez détruit...
24 heures chrono.
Vous avez détruit toutes les copies du film. Et donc voilà, comme quoi c'est un peu important.
Ça, ce sera un bon scénar de film, tu vois, t'as 24 heures pour clearer le...
Et le film lui a coûté 800... Je crois que c'est $800,000, et la clearance lui a... Parce que justement, il était vraiment acculé, $90,000.
Ah oui, ça fait mal quand même. Je vous propose de continuer cette petite discussion de manière plus informelle. Entre nous, nous avons à la terrasse là-bas un drink, comme ça nous pouvons en discuter tous ensemble. Vous voyez donc qui sont ces charmantes personnes, que vous connaissez d'ailleurs. Et puis ensuite, ce sera suivi d'un barbecue et il y a un petit concert avec un groupe que vous allez découvrir. Voilà, un groupe de saison. non, pas moi. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu. Et puis on vous tiendra au courant pour la diffusion du podcast sur Radio Rectangle. Merci beaucoup.
Merci à tous.